Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrez à nouveau vos Bibles au 10e chapitre de Jean. Cette portion est vraiment merveilleuse, riche et précieuse, et notre Seigneur s'identifie comme le bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Cette métaphore particulière, cette comparaison, cette image de mots, comme on l'appelle au verset 6, a peut-être besoin d'une petite explication pour nous quant au contexte, afin que vous sachiez pourquoi cela s'est produit ici. Il n'y a rien d'isolé dans le ministère de Jésus. Tout avait bien sûr un contexte historique. Je pense que beaucoup de personnes lisent la Bible comme une sorte de livre spirituel, comme si elle était détachée de l'histoire, des événements, des gens, des conséquences et des séquences. Mais c'est toute l'histoire. Tout ce que nous lisons dans les évangiles en termes de doctrine et de théologie, les grands discours de notre Seigneur ont été, à un moment donné, lors d'un événement, un point stratégique, et c'est ce qui a parlé à ce moment-là. C'est ce qui a parlé à cette heure cruciale. C'est essentiellement vrai. Notre Seigneur avait été, au chapitre 8, dans une confrontation avec les dirigeants d'Israël. Ils l'avaient rejeté, ils avaient déclaré leur haine envers lui, et ils étaient sur le point de le tuer. En fait, au moment où vous arrivez au chapitre 10, ils ont essayé au moins trois fois de provoquer sa mort. Leur vision du Christ ne fait aucun doute. Au chapitre 8, il y a eu ce conflit, cette confrontation. Certes, il a intensifié la situation en leur disant la vérité. Il leur a dit « Vous êtes de votre père, le diable. C'est un menteur et un meurtrier. Donc vous êtes aussi des menteurs et des meurtriers. » On pourrait dire que, pour eux, l'incident du chapitre 8 s'est terminé sur une note très grave. En conséquence, le chapitre 8 se termine par ces mots. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ainsi, il échappe à une lapidation immédiate, une sorte d'exécution suite à la violence de la foule des justiciers. En sortant du temple, il voit un aveugle. Il est absorbé par la foule, mais comme il passe la porte, il voit un aveugle. Parce que c'est ce que les aveugles avaient l'habitude de faire. Il s'asseyait à la porte pour mendier. C'est là qu'il a trouvé cet homme. L'homme était aveugle de naissance, et Jésus s'arrête et le guérit. À ce moment-là, ses ennemis, les pharisiens, l'avaient rattrapé. Ils avaient ralenti l'effort pour le tuer à ce moment-là. Il était absorbé par la foule, en ayant attiré l'attention de la foule par le miracle. Ils sont, encore une fois, profondément affligés par le fait qu'il a une telle popularité, qu'il a guéri cet homme et attiré une telle attention sur lui. Ils avaient fait une loi. Cette loi est indiquée au chapitre 9, verset 22, selon laquelle, si quelqu'un confessait que Jésus était le Messie, il serait expulsé de la synagogue. Jésus a guéri l'aveugle, puis l'aveugle est venu à la foi en Christ. À la fin de l'histoire, nous savons, verset 38, qu'il a dit « Seigneur, je crois », et il l'a adoré. Ainsi, l'homme a été guéri physiquement, et il a été guéri spirituellement. À la suite de cela, il a violé leur loi. Il a confessé Jésus comme Messie, Seigneur et Sauveur. Ils le jettent hors de la synagogue, et ils ont toujours l'intention de tuer Jésus. Le chapitre 9 présente donc une extension du chapitre 8. Dans l'hostilité des chefs religieux du judaïsme envers Jésus, la guérison de l'aveugle, en un sens, dans le grand drame des choses, est quelque peu accessoire. Pas accessoire à l'aveugle, mais l'image fondamentale ici est que, quand Jésus fait un miracle monumental, qui n'a pas d'autre explication, parce que c'est un homme congénitalement aveugle. Et tout le monde le sait, parce qu'il est un personnage familier qui mendie depuis longtemps à la synagogue. Cela n'a aucun effet sur ce qu'ils ressentent à propos de Jésus. Ils ne font aucun mouvement pour affirmer autre chose que le fait que ses pouvoirs viennent de Satan. Leur hostilité a dépassé le point de non-retour. Ils se montrent en fait comme de faux leaders qui, au lieu de reconnaître leur Messie, rejettent leur Messie et veulent exécuter leur Messie. Ce sont, en un mot, les faux bergers d'Israël. Le berger est évidemment une métaphore dans le monde antique que les gens comprenaient dans une société agraire. C'était très courant dans l'Ancien Testament, comme nous le lisons dans le psaume 80. Dieu est appelé le berger d'Israël. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. En d'autres endroits encore. Ils ont tous compris cela parce que la terre d'Israël était pleine de moutons et de bergers. Les bergers ont parlé de soins, d'alimentation et de protection. C'étaient des hommes qui se nommaient bergers d'Israël, mais c'étaient de faux bergers. La vérité est qu'ils étaient des loups déguisés en moutons. Ainsi, au chapitre 9, après la guérison de cet homme, ils refont surface, avec la même haine et la même hostilité. Le chapitre se termine, le chapitre 9, avec Jésus prononçant un jugement sur eux, à cause de leur aveuglement, parce qu'ils sont volontairement aveugles à la vérité. La conversation, spécifiquement avec eux, se termine par ces mots. Votre péché demeure. Vous êtes tous sauf justes. Vous êtes dans votre péché. Maintenant, il a parlé de cela plus tôt quand il leur a dit, vous mourrez dans votre péché, et là où je vais, vous ne viendrez jamais. Ici, il dit, quelques chapitres plus tard, vous restez dans votre péché demeure. Ainsi, voici les dirigeants aveugles d'Israël, les dirigeants aveugles des aveugles. Voici les faux bergers d'Israël. Alors que nous entrons dans le chapitre 10, il leur parle toujours. Il leur parle toujours. Ils sont toujours là. L'aveugle est toujours là. Les disciples sont là. La foule des Juifs est là, près de l'endroit où la guérison a eu lieu. Et les pharisiens, les scribes sont toujours là. Jésus se lance alors dans une description de la façon dont un bon berger mène sa vie. Cette description est ce que nous avons regardé la semaine dernière, versets 1 à 10. C'est, selon le verset 6, une figure de style, une analogie, une métaphore. Et nous avons examiné certains des détails à ce sujet la semaine dernière qui nous aident à comprendre le berger. Un berger a ses propres moutons. Il a ses propres moutons. Il connaît ses propres moutons. Il a non seulement le droit de conduire et de nourrir ses propres moutons, mais il a la responsabilité de conduire et de nourrir ses propres moutons. La nuit, vous vous souvenez ? Les moutons entraient dans la bergerie du village, et chaque berger amenait ses moutons. Ils étaient tous dans la même bergerie. Puis le matin, le berger venait appeler ses propres brebis, les appeler par leur nom. Il connaît ses moutons. Il les appelle par leur nom. Les moutons connaissent la voix de leur maître et le suivent. Le mouton ne suivra pas un étranger. Nous avons également appris que pendant qu'ils sont dans la bergerie, la nuit, les voleurs et les brigands peuvent essayer de grimper par-dessus le mur pour voler la laine des moutons, ou même les abattre. Donc, il doit y avoir un garde à la porte pour protéger les moutons, car il y a toujours des voleurs et des brigands. Le berger s'engage à les protéger la nuit dans la bergerie, puis, le matin, à venir les conduire dehors, par leur nom, vers des pâturages verts et des eaux calmes. Le berger est même la porte, car ils doivent passer devant lui pour être identifiés comme étant les siens. C'est une belle image de l'élevage. Mais ce n'est pas son but, c'est l'image. La réalité devient claire lorsque vous regardez l'image, au verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un vient par moi, il sera sauvé. » Oh, je vois de quoi nous parlons. Ceci est une image du salut fournie par le vrai berger. Le salut, ce sont toutes des images de la doctrine du salut. Le divin berger a ses propres brebis. Elles lui ont été données par le Père. Elles ont été choisies avant la fondation du monde. Il les connaît toutes par leur nom. Il a le droit de les appeler. Il les appelle par leur nom. Elles connaissent sa voix. Elles le suivent. Elles ne suivront pas un étranger. C'est le salut. Les élus sont au sein du monde. Mais le moment est venu de les appeler. La voix du berger les appelle. Ils entendent cette voix et ils suivent cette voix. C'est une grâce irrésistible. C'est l'appel efficace, l'appel divin au salut. Ils ne suivront pas un étranger. Ils ne suivront pas une voie qu'il aurait inconnue. Oui, il y a des voleurs et des brigands, de faux enseignants qui essaient de monter dans la bergerie pour voler la laine, détourner les moutons, les détruire et les tuer. Mais le berger leur fournit une protection contre les faux enseignants. Le berger les conduit, va devant eux et ils le suivent. Il les emmène en toute sécurité dans des verts pâturages, ce qui signifie une bénédiction spirituelle, des eaux calmes, ce qui signifie des bénédictions spirituelles, à travers le temps et pendant l'éternité. C'est une leçon sur le salut, c'est une image. Contrairement aux faux bergers qui sont les étrangers, qui sont les voleurs, et que nous verrons dans les versets 11 à 21, ce sont les ouvriers, de simples employés. Le vrai berger prend soin de ses brebis. Donc cette image, tout le monde l'affirmerait. Ils diraient tous que c'est exactement ce que fait un berger. Il a ses propres moutons. Il a la responsabilité de prendre soin de ses moutons. Il les met en lieu sûr. Il les appelle hors de la bergerie. Il les appelle par leur nom. Il les nomme. Ils connaissent sa voix. Ils le suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Ils doivent être protégés du danger des voleurs et des brigands. Ils sont emmenés par le berger vers des endroits où ils peuvent manger et boire. C'est un bon berger. C'est une image du salut. Qui est le berger? Jésus commence à nous donner une assez bonne idée quant au verset 9. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, car il dit « Je suis la porte ». Les bergers étaient la porte. La nuit, les moutons entraient, et le berger laissait tomber sa verge et arrêtait chaque mouton, chacun d'eux. Il les vérifiait pour tout type de blessure ou tout problème, puis soulevait le bâton pour les laisser entrer. Le matin, il les appelait tous par leur nom, et ils devaient passer devant lui. Le berger était la porte. Jésus dit que ce berger est fidèle, et que c'est ainsi que ce boulot doit être fait. Voilà comment je fais. Je suis la porte. Cela donne un assez bon indice. Nous savons qu'il parle métaphoriquement, parce que c'est une figure de style, et parce que, dans le même verset, il dit qu'il parle du salut. Mais ensuite, au verset 11, il dit spécifiquement « Je suis le bon berger, ce bon berger que je viens de décrire. » Ce bon berger que je viens d'identifier par la façon dont il se comporte et mène sa vie avec les brebis, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire ou voit rien. Et il ne protège pas les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Une division s'est de nouveau produite parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un possédé par un démon. Un démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles, n'est-ce pas ?» Donc ici, au verset 11 à 21, notre Seigneur explique comment il accomplit l'identité du bon berger. Il est le bon berger. Il est celui qui a été prophétisé. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, dans Ézéchiel 34, le bon berger que Dieu lui-même enverrait. Comme je vous l'ai dit la dernière fois et je le répète encore, il se lance dans cette partie particulière du discours, parce que les chefs religieux d'Israël étaient connus comme les bergers d'Israël, mais ils étaient de faux bergers. Ainsi il distingue les faux dirigeants de lui-même. Il est le vrai berger des brebis. Ils étaient aveugles. C'est ainsi que la conversation avec eux s'est terminée au chapitre 9. Versets 39 à 41. Ils étaient spirituellement aveugles à la vérité de Dieu. Ils ne pouvaient conduire personne nulle part, car ils ne pouvaient pas voir eux-mêmes où ils allaient. Ce sont de faux leaders. Ce sont en fait des étrangers, pas des bergers. Ce sont des mercenaires, des ouvriers, qui font ce qu'ils font pour de l'argent, et qui ne se soucient aucunement des moutons. Ce sont des voleurs, qui peuvent voler et tuer. Jésus parlait d'eux en les comparant à lui-même. L'ont-ils compris? Non. Verset 6. Ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait, ce qui est la preuve de ce qu'il a dit au verset 39 à 41 du chapitre 9. Vous êtes aveugles. Vous ne comprenez pas. Il a dit cela plus tôt. Quoi que je dise, vous ne comprenez pas. Il est même allé jusqu'à dire, parce que je vous dis la vérité, vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes de votre père le diable, qui est un menteur. Si je mentais, vous l'auriez compris. Mais quand je dis la vérité, ce n'est pas le cas. Donc cette même paroimia, ou comparaison, métaphore, est conçue comme une illustration non seulement du bon berger, mais une illustration de l'aveuglement des faux bergers, parce qu'ils ne l'ont pas du tout compris, les faux chefs, les voleurs, les brigands, les étrangers. Les ouvriers n'ont rien d'autre en tête que de se protéger. Ils ne veulent pas risquer leur vie pour les moutons, comme nous le lisons. Ils veulent de l'argent, et, si besoin est, ils deviendront des voleurs et des brigands pour l'obtenir. Ce sont des étrangers, pas des bergers. Le vrai berger, cependant, est décrit ici comme celui qui aime, prend soin, nourrit, vit et meurt pour les brebis. Cela, bien sûr, n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardons ces versets 11 à 21. Et nous allons simplement travailler là-dessus. C'est, au fait, le quatrième « Je suis » dans l'évangile de Jean. Il y a toute une série de « Je suis » que notre Seigneur donne. Et « Je suis » est le tétagramme en hébreu, l'ego, eimi en grec, le « Je suis » signifiant le nom de Dieu. Il y a donc aussi des prétentions à la divinité dans le contexte de chacun. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. » Toutes les affirmations de sa divinité sont liées à la déclaration « Je suis » de celle-ci. Mais ici, il est le bon berger. Regardons un peu cela. « Je suis le bon berger. » Puis il le répète immédiatement. « Le bon berger. » Encore une fois. Maintenant, c'est une construction importante que nous devons comprendre. L'accent est mis ici. « Je suis le berger, le bon. » Un ordre très important ici. « Je suis le berger, le bon. » Comme pour dire « Contrairement à tous les mauvais, je suis le berger, le bon. » Mais il y a deux mots en grec pour « bon ». L'un est « agathos », d'où vous tirez le mot « agatha » ou le nom « agatha ». Agathos, un ancien nom. Agathos signifie moralement « bon ». Bon, et en quelque sorte associé à la bonté morale. C'est un mot merveilleux, un mot magnifique, familier dans le Nouveau Testament. Mais l'autre mot est « kalos », l'opposé de « kalos », qui signifie « être mauvais ». Kalos doit être bon non seulement dans le sens de la qualité morale, mais c'est un mot plus englobant. Cela signifie être beau, être magnifique, être séduisant, être excellent à tous les niveaux, pas seulement dans ce qui est invisible en termes de caractère, mais dans tous les aspects. Je suis le berger, l'excellent. Je suis le berger, que ce soit le beau par opposition au laid, au dangereux. Il n'est pas simplement un autre berger. Il est le berger, le bon, celui qui est par excellence. Il est au-dessus de tous les bergers, le bon. Maintenant, les Juifs avaient une idée de qui était le meilleur berger. Pour eux, historiquement, c'était David. David, le garçon berger, qui prenait soin des troupeaux de son père. Il vainquit Goliath et devint roi d'Israël. David était leur grand berger historiquement. Mais vous souvenez-vous, au chapitre 5, Jésus a prétendu être plus grand que Moïse. Et au chapitre 8, il affirmait être plus grand qu'Abraham. Avant qu'Abraham fût, moi. Ici, il est le berger bien plus grand que tout autre berger, y compris David. Il est le berger qui est le bon, le premier. C'est tout à fait une prétention de dire que tu es meilleur que Moïse, meilleur qu'Abraham, meilleur que David, et de dire que tu es Dieu. Pas étonnant qu'il ait dû le soutenir avec des miracles, n'est-ce pas? Il disait à ses Juifs qu'il était Dieu, parce qu'il connaissait le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Il connaissait le psaume 80, « Le berger d'Israël ». Il savait ce qu'Ésaïe le prophète disait à propos de Dieu qui dirigeait son peuple. Il dit « Je suis le berger, le bon ». Encore une fois, une autre revendication à la divinité. Maintenant, sa vraie bonté en tant que berger est vue de trois manières ici dans ce passage. Je ne vais rien vous dire que vous ne savez déjà, mais je vais vous dire ce qu'il y a ici. Vous pouvez être reconnaissant que vous le sachiez, car revoir cela est si riche et merveilleux pour nous. Ce berger, le bon, est marqué par trois ministères particuliers à ses brebis. Premièrement, il meurt pour eux. Deuxièmement, il les aime. Troisièmement, il les unit. Il meurt pour eux, il les aime, il les unit. Retour au verset 11. Le berger, le bon, donne sa vie pour les brebis. Les bergers étaient absolument responsables des moutons. C'était une affaire sérieuse. C'était un travail d'homme. Et c'était vraiment un travail humble, parce qu'il n'était pas qualifié et qu'il présentait un risque élevé. Aussi, c'était souillant et sale. Mais un berger était absolument responsable des moutons. S'il arrivait quelque chose aux brebis, il devait produire la preuve que ce n'était pas de sa faute dû à un manquement à son devoir, ou un vol des moutons pour sa propre garde, en laissant un ami en prendre un, ou quoi que ce soit. Amos, le prophète, parle du berger sauvant deux jambes, ou un morceau d'oreille de la gueule du lion. Amos 3.12. Il se battait contre des bêtes. Il y avait des loups, des lions des montagnes. Il y avait même des ours. David raconte à Saül comment, quand il gardait les moutons de son père, dans 1 Samuel 17, il a combattu un lion et il a combattu un ours. Soit dit en passant, c'est ce qui a fait de David un berger si héroïque. Dans Ésaïe 31, Ésaïe parle de l'appel des bergers. Lorsqu'un lion attaquait, il appelait les bergers à venir combattre le lion. La loi l'établit. Exode 22.13. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si vous n'avez pas de mouton, si vous avez perdu un mouton, vous devez rendre compte de ce mouton au propriétaire ultime. Vous devez apporter une pièce pour prouver que c'était un animal qu'il avait emporté. Pour le berger, c'était alors la chose la plus naturelle de risquer sa vie. C'est ce que les bergers faisaient. C'est ce qu'ils faisaient maintes et maintes fois. Vous pourriez simplement mener des brebis dans l'herbe et les laisser là, je suppose. Mais pourquoi le berger restait-il? Pourquoi ces longues, longues heures passées là-bas? Parce qu'il devait être un protecteur. Il y a un vieux livre intitulé « The Land of the Book ». Et l'auteur de ce regard historique sur Israël a déclaré « J'ai écouté avec un intérêt intense les descriptions graphiques de leurs combats directs et désespérés avec des bêtes sauvages. Quand le voleur et le pillard arrivent, le berger fidèle doit souvent mettre sa vie en jeu pour défendre son troupeau. J'ai connu plus d'un cas où il a dû littéralement la perdre dans la lutte. Je veux dire, si vous combattez une bête sauvage, vous pourriez perdre. Donc il y avait un risque. » Et vous ne puissiez pas tout d'un coup écarter le risque. Le berger pouvait mourir. Il poursuit en disant « Un pauvre garçon, au printemps dernier, entre Tibère et Tabor, au lieu de fuir, a en fait combattu 3 voleurs bédouins, jusqu'à ce qu'ils soient mis en pièces avec leurs canjards, et il mourut parmi les moutons qu'il défendait. C'est arrivé. Mais c'est ce qu'a fait le berger. Vous parlez d'un homme. Vous parlez d'un travail difficile, peu rémunéré, avec peu de compétences. » Un berger qui fait ce qu'il ne devrait jamais hésiter à risquer peut même être appelé à donner sa vie. C'était volontaire, parce qu'il n'avait pas à s'engager dans ce métier. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis le bon berger. Le berger qui est bon donne sa vie. Il donne sa vie. » Allez au verset 18. « Personne ne me l'a enlevé, mais je la pose de ma propre initiative. J'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. Librement, volontairement. » Jésus a abandonné sa vie pour les brebis. Certains diront, ce n'est pas grave, il est Dieu. Donc il avait un corps, et il a abandonné le corps. Et vous savez, rien d'important, c'est plus que cela. C'est étrange que les commentateurs disent même quelque chose comme cela. Il y avait beaucoup plus que cela, et c'est lié au mot « vie ». Il donne sa vie. Ce n'est pas le mot « bios » ou « zoe », ce sont les deux mots pour « vie » en grec. « Bios », vie biologique. Zoé, qui se transforme en zoologie, l'étude de la vie. Ce n'était ni l'un ni l'autre de ces mots scientifiques. C'est le mot psuche, qui signifie âme, qui parle de la personne dans son ensemble, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le psuche est l'intérieur. Il a abandonné son âme, toute sa personne. Il n'a pas seulement ressenti la douleur des clous dans son corps, la douleur des épines dans son corps, et la douleur de la flagellation dans son corps. Son âme entière a été torturée par l'angoisse et la souffrance liée au péché. Dans Matthieu 20, 28, Jésus a dit « Le Fils de l'homme donne son âme comme une rançon pour plusieurs. » Cela se traduit par vie, mais c'est encore une fois psuche. Il donne son âme, toute sa personne, et il l'a ressentie dans chaque partie de son être. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il volontairement déposé son âme? Il dit « Pour les brebis, Huper, au nom d'eux, au profit d'eux. » C'est exactement ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 21, où Paul explique « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Pour nous, Huper apparaît dans de nombreux passages qui parlent de l'expiation substitutive du Christ, qu'il a pris notre place, qu'il est mort pour nous. Une véritable expiation. Il a donné son âme pour les brebis. C'est assez restreint. Pour les moutons, c'était une véritable expiation. Une expiation complète pour les brebis qu'il connaissait. et qui, une fois appelé, le connaîtrait. Il l'a fait pour le bien des moutons. D'un point de vue naturel, si cela arrive au berger, c'est la fin des brebis. Si quelque chose vient vers les moutons et tue le berger, les moutons seront vulnérables. Ils risquent d'être tués. Ils risquent d'être dispersés. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un voleur, la mort du berger pourrait vraiment signifier la fin des brebis. Mais ce berger, non, parce qu'il a donné sa vie. Le verset 18 dit qu'il avait le pouvoir de faire quoi ? La reprendre. Le troisième jour, il sortit de la tombe et rassembla ses brebis dispersées. Elles étaient dispersées ? Oui, elles l'étaient. Frappe le berger, et quoi ? Les moutons sont dispersés. Zacharie l'a promis, et ils l'ont été. Mais il est revenu de la tombe et les a réunis à nouveau. Et il a dit ceci, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je n'en ai perdu aucun. » Ainsi, la mort du berger signifiait généralement la mort du berger. Mais pas dans ce cas. Pourquoi est-il mort ? Ésaïe 53:8, pour les péchés de mon peuple. Matthieu 1:21, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, ses brebis. C'est une véritable expiation. Ce n'est pas un potentiel que vous pouvez, en quelque sorte, transformer en quelque chose de véritable, si vous croyez. Il a payé intégralement la pénalité pour ses brebis, qu'il connaissait, car tout au long de l'histoire humaine, il les appelle à venir à lui. C'est tout à fait différent d'un ouvrier salarié, verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Le vrai berger ou le propriétaire, et parfois c'était la même personne, il se soucie des moutons. Ce n'est pas un travail pour lui, c'est sa vie même. Il a développé des relations avec ses moutons. Ils lui sont connus, ils sont aimés. Ce n'est pas le cas des employés embauchés. J'aime l'ancienne traduction « mercenaire ». Une caractéristique d'un mercenaire, selon Zacharie 11:6, est qu'il ne fait aucune tentative pour rassembler les brebis dispersées. Le monde a toujours été rempli de mercenaires. C'est un autre mot pour les dirigeants d'Israël. Étrangers, voleurs, brigands. Maintenant, embauchés, mercenaires. Je suppose qu'il vaut mieux être un mercenaire qui court qu'un voleur ou un brigand. Mais la fin est la même. Les moutons deviennent victimes de l'un de ces éléments. Le monde a toujours été rempli de ce genre de personnes, et le troupeau de Dieu est toujours attaqué par ces faux chefs qui volent et détruisent les moutons, et qui fuient quand de vrais problèmes surviennent. Qui est le loup ? Le loup est tout ce qui attaque les moutons, n'importe quoi, tout ce qui est satanique, tout ce qui est orchestré de manière satanique à travers le monde, tout ce qui vient contre les moutons. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux enseignants, comme il y en a eu à travers l'histoire. Ils peuvent dire « Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Mais Jésus va dire « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a des hommes pervers, acte 20, qui se lèvent dans l'église pour égarer les gens, ainsi que des loups qui viennent de l'extérieur. Mais c'est Jésus qui risque sa vie et l'abandonne pour ses brebis. Un mercenaire est un mercenaire, aucune impulsion autre que le gain personnel, et un lâche dans la crise. Quand la crise survient, qu'il s'agisse d'une attaque de l'extérieur ou d'une attaque de l'intérieur, le mercenaire va se protéger. Il est absent. Il y a un danger extérieur. Un danger extérieur, une attaque des loups. Il y a aussi les loups habillés en peau de mouton. Jésus a dit dans Matthieu 7, « Il y a un danger intérieur, les faux enseignants, qui, au lieu de protéger le troupeau, fuient quand le danger arrive. Mais le vrai berger donne sa vie pour les brebis, puis la reprend et les rassemble comme elles ont été dispersées. Ainsi, le premier élément essentiel de l'Église en matière de leadership est la pastorale à l'image du Christ, où vous mettez même votre vie en jeu, voire même votre vie pour les brebis. Vous risquez votre vie pour être celui par qui Dieu en Christ peut les appeler, les protéger. Lorsque le danger survient, vous ne courez pas. Quand le danger arrive, vous vous levez. Je parlais hier à l'un des missionnaires à la conférence et il disait « Où sont les gens qui se lèveront ?» et diront la vérité pour protéger le peuple de Dieu. Où sont-ils? C'est tellement difficile d'en trouver. Nous sommes tous des sous-bergers. 1 Pierre 5, sous le grand berger, le bon berger. Nous devons tous être prêts à risquer nos vies pour les moutons. Ainsi, la première caractéristique de la relation du berger avec les brebis est « il donne sa vie ». Deuxièmement, il aime ses moutons. C'est bien sûr ce qui se cache derrière le don de sa vie. Verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Ceci explique pourquoi il donne volontairement sa vie pour les brebis, parce qu'il les connaît. Vous dites, où trouvez-vous l'amour? Il n'y a pas d'amour là-bas. Tout le monde connaît le verbe, ginosko, connaître, quatre fois. Laissez-moi vous montrer quelque chose, juste un petit indice. Le Père me connaît. Verset 15. Verset 17. Le Père m'aime. C'est la clé d'interprétation. Le mot connaître ici a l'idée d'une relation amoureuse. Cela remonte à Genèse 4.1, où Adam connaissait sa femme, et elle avait un enfant. Cain connaissait sa femme, et elle avait un enfant. Adam connaît de nouveau Ève, et elle a un autre enfant. 7. Dieu dit en fait à Amos, « C'est seulement moi qui ai connu Israël. » Cela ne veut pas dire que les Juifs sont les seules personnes qu'il connaît. De quoi parle-t-il? Cela parle de Joseph. Il était tellement perturbé parce que Marie était enceinte et qu'il ne l'avait jamais connue. De quoi cela parle-t-il? C'est un euphémisme pour intimité. Ce n'est pas une question d'information. Il s'agit d'amour. Et quatre fois, ce mot « connaître » ici implique cette relation intime, cette fraternité intime, douce et aimante, ce genre de relation consommée. Dans le chapitre 14 de Jean, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Alors là, le langage est amour, plutôt que la connaissance. Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, quand vous voyez le mot « connaître » dans ce contexte, c'est l'idée d'une relation amoureuse et intime. Il aime ses brebis. Il les connaît plus que simplement connaître leur nom, plus que savoir qui elles sont. Il a une relation intime avec elles. Il les connaît intimement. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais quoi. Je ne t'ai jamais connu. Mais je sais qui tu es. » Ce n'est pas une question d'information. Je sais qui tu es. Je n'ai aucune relation intime avec toi, aucune relation amoureuse. Il voulait donner sa vie pour ses brebis parce qu'il les connaissait, il les aimait. Jean 3.16. Dieu a tant aimé le monde qu'il, quoi, a donné son Fils unique. C'est pourquoi le Père a donné le Fils. C'est pourquoi le Fils a donné sa vie. Il aime ses brebis. Cela aussi est un contraste frappant avec les faux bergers qui n'ont aucun amour pour les brebis, aucune affection pour les brebis qu'ils prétendent être. Il aime les siens. Cet amour mène à un troisième aspect de la relation. Il unit les brebis, d'abord avec lui-même, puis les unes avec les autres. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Maintenant, que vous ai-je dit à propos de la bergerie du verset 1, la semaine dernière? Je vous ai dit que la bergerie du verset 1 est Israël, n'est-ce pas? Le berger vient à la bergerie, appelle ses brebis. Le Seigneur est le berger. Il vient en Israël, d'abord vers le Juif, puis il appelle ses brebis par leur nom, et elles le suivent. Mais il a aussi des moutons qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Je dois aussi en parler. Qui sont-ils? Les non-juifs. N'importe qui en dehors d'Israël. Les païens, les nations. C'est magnifique. C'est inacceptable pour les Juifs. C'est plus de carburant pour leur animosité, parce qu'ils en veulent aux païens. Ils croient que les païens sont en permanence en dehors du salut, de l'alliance et des promesses de Dieu. Pourtant, dans Ésaïe 42, un chapitre messianique, une prophétie messianique, nous lisons le verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. C'est Dieu qui parle au Messie. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Il y a une promesse messianique que le Messie apporterait le salut aux nations. Une autre comme celle-ci est dans Ésaïe 49, verset 6. C'est peu de choses que tu sois mon serviteur, le Messie, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Que dire de cela? Il les choque en disant « Écoutez, j'ai des moutons qui ne sont pas de votre bergerie. C'est pourquoi il y a une grande mission. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à chaque créature. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il les rassemblera tous comme un seul troupeau, avec un seul berger. Et c'est pourquoi Paul, dans Galates 3, dit « En Christ, il n'y a ni juif ni grec, juif ou païen. » C'est pourquoi dans Éphésiens 2, Paul dit « Le mur de séparation du milieu est démoli, et nous sommes tous un en Christ, juif, païen. » Au chapitre 11, verset 49, Caïphe, en faisant sa prophétie par inadvertance, il était grand prêtre, a dit aux gens qui conspiraient pour tuer Jésus « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Cela a toujours été son intention. Il unit ses brebis, il les rassemble, à lui-même et les unes aux autres. Voilà donc la relation du bon berger avec les brebis. Il donne sa vie parce qu'il les aime, et il les amène dans une unité intime avec lui-même, les unes avec les autres. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit, un avec lui et un avec tous les autres dans le seul corps de Christ. Deuxièmement et brièvement, la relation du bon berger avec le Père est au verset 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Laissez-moi vous donner une idée simple de cela. Le Père a donné un ordre. Le commandement à Jésus était « Donne ta vie et reprends-la. Tu as le pouvoir de le faire. Je te commande de le faire. » C'était un ordre, mais personne ne me l'a prise. Je la pose de ma propre initiative. C'est pourquoi le Père m'aime, à cause de mon obéissance. C'est assez profond. Oui, le Père a choisi Jésus pour être l'agneau, le sacrifice acceptable. Oui, le Père est celui qui a tué le Fils par le conseil et la prescience prédéterminée de Dieu. Il était le sacrifice. Mais ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle Jésus n'avait pas le choix. J'ai donné ma vie. Personne ne me la prend, y compris Dieu. Jésus nous dit que c'était un acte parfait d'obéissance volontaire. Ce sont des mystères. Il ne pouvait pas pécher. Il n'avait aucune capacité de pécher. Pourtant, il y a une vraie lutte, parce que dans le jardin il dit « Père, si c'est possible, de faire quoi ? D'arrêter cela ? D'éloigner de moi cette coupe ? Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il a fait volontairement ce que le Père lui a ordonné de faire. Et c'est ainsi qu'il a démontré son amour au Père. Et c'est pourquoi le Père l'aime. Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie pour que je la reprenne. C'est ce que le Père voulait qu'il fasse. C'était essentiel pour le plan du salut, pour rassembler les rachetés dans la gloire éternelle. Il l'a fait volontairement. Ce n'était pas fataliste. Ce n'était pas quelque chose pour lequel il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas faire un mauvais choix. Mais il a volontairement fait le bon choix. J'ai reçu un ordre, j'ai volontairement obéi à cet ordre, et ainsi obtenu l'amour du Père. Si vous m'aimez, dit Jésus, que faites-vous? Gardez mes commandements. C'est ainsi que vous affirmez votre amour. Il y a une relation finale ici, la relation du bon berger avec le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est dans les versets 19 à 21. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. En passant, si vous revenez au chapitre 7, verset 43, et retournez au chapitre 9, je pense que c'est le verset 16. Il y a des divisions. Jésus a divisé la foule. Les divisions, cependant, ne sont pas nécessairement entre croyants et non-croyants. Il y a des divisions parmi les non-croyants. Et c'est ce que vous avez ici. Une division s'est produite parmi les Juifs, à cause de ce que Jésus avait dit. Beaucoup d'entre eux, peut-être la majorité d'entre eux, disaient « Il a un démon, et il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » Cela aurait été le mantra, bien sûr, des dirigeants. Les gens y auraient adhéré. Vous savez, il fait ce qu'il fait par le pouvoir de Belzébuth, Satan, comme nous le lisons dans Matthieu 12. Ainsi, à une extrémité de la division, se trouvaient les gens qui disaient que Jésus est un maniaque. Il est fou, possédé par un démon. Nous avons des gens comme cela, des gens qui ne craignent pas de maudire Jésus, de dire des choses blasphématoires à son sujet. Mais ensuite, il y avait les autres, verset 21, disant « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. » Je veux dire, c'est assez rationnel, n'est-ce pas? C'est assez rationnel. Un démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles, n'est-ce pas? Les gens possédés par des démons ne parlent pas comme cela. Ils ne sont pas cohérents, et ils ne font pas tout ce qu'il a fait. Ils ne font pas ces miracles. Donc, quelles que soient les contrefaçons que font les démons, elles ne ressemblent pas à cela. Ce sont donc les personnes les plus rationnelles. Je suppose que vous pourriez dire que les premiers sont les blasphémateurs irrationnels. Les seconds sont les gens plus rationnels. Ils finissent tous les deux dans le même enfer pour toujours. Parce que peu importe que vous maudissiez Jésus ou que vous le traitez plus raisonnablement, ce genre d'hésitation, de discussion, ne vous rapporte rien. Soit vous confessez Jésus comme Seigneur, soit vous mourrez dans vos péchés et occupez le même enfer avec les blasphémateurs extrêmes. Nous rencontrons donc le bon berger. Par rapport à ses brebis, il donne sa vie pour ses brebis. Il aime ses brebis. Il unit ses brebis. Sa relation avec le Père, il aime et obéit au Père. Sa relation avec le monde, il est rejeté soit par ceux qui le blasphèment d'une manière irrationnelle, soit par ceux qui le tolèrent rationnellement. Mais pour nous, nous nous placerons parmi les disciples ce jour-là et nous dirons avec Pierre, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, n'est-ce pas ?» Nous dirons ceci pour notre bénédiction. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous le déclarons être le grand berger des brebis qui sont sortis de la tombe. Il est notre berger. Prions. Père, nous te remercions encore de nous aimer, de donner ta vie pour nous, de nous unir, d'aimer et d'obéir au Père, et d'être si volontairement le sacrifice pour nos péchés. Ensuite, tu es ressuscité pour nous élever dans la justification et la gloire. Nous serions littéralement submergés si nous pouvions même saisir ce que tu as préparé pour nous à l'avenir. Mais nous reconnaissons le frisson de cela même que tu nous as accordé maintenant. Remplis-nous de gratitude et de bénédiction, alors que nous continuons à te servir. Nous prions au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.